Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les scientifiques sont sur le point de décrypter le fonctionnement le plus intime de notre cerveau, comment les pensées émergent, comment la mémoire se forme et se transforme, mais également comment nos capacités cognitives peuvent s'enrichir de nos émotions et de nos humeurs. Depuis une quinzaine d'années, les sciences du cerveau sont en pleine explosion et toutes ces avancées permettent non seulement d'enrichir la connaissance, mais également de lutter contre différents troubles neurologiques. À l'occasion de la semaine du cerveau, je reçois dans un instant le chercheur Pierre-Marie Liédo pour nous parler de cet organe exceptionnel qu'est notre cerveau. Il répondra à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, enfin une nouvelle positive sur le front de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Et c'est pas souvent.
Oui,
hein.
Elle nous vient du Danemark avec une équipe qui a identifié un moyen de rendre à nouveau sensibles aux antibiotiques des bactéries multirésistantes. On vous présente les résultats et d'autres pistes de lutte avec le professeur Patrick Plaisir.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy consacré aujourd'hui au prénom. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Pierre-Marie Liédo.
Bonjour Mathieu.
Hier, à votre place, Edgar Morin nous parlait de la complexité fascinante du cerveau. Il comparait le cerveau à un cosmos. Alors, il reste beaucoup à découvrir en cosmologie. Est-ce qu'il y en a autant à faire dans les sciences du cerveau ?
Ah, pleinement. En fait, plus nous cherchons et plus nous découvrons qu'il reste encore des questions et des frontières de la connaissance qui sont vraiment abyssales. C'est-à-dire que plus on avance et plus le sol sous nos pieds se dérobe.
Voilà. Et vous n'êtes pas découragé pour autant, hein ?
Non, au contraire, je dirais que ça stimule l'envie de venir travailler tous les jours.
Donc ça stimule votre cerveau par
absolument,
la même.
Oui.
Allez, c'est le cerveau du 21e siècle que vous explorez dans votre ouvrage et on se retrouve dans un instant pour en parler avec les messages et les questions des auditeurs. On compare souvent la résistance bactérienne aux antibiotiques avec le réchauffement climatique. Le phénomène est mondial, il est causé par les hommes et il est urgent de trouver des solutions sous peine de grosses catastrophes. Eh bien, les solutions arrivent. Une équipe danoise publie aujourd'hui dans la revue Scientific Reports une étude intéressante proposant de rendre de nouveau sensibles aux antibiotiques des bactéries multirésistantes. Patrick Plaisir, vous êtes en ligne avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur du Centre National de Référence sur la Résistance Bactérienne, chef de service du laboratoire de bactériologie au CHU de Besançon. Alors, quelle était d'abord la démarche de ces chercheurs danois pour tenter d'endiguer la résistance aux antibiotiques chez ces bactéries ?
Alors, en fait, ils utilisent une nouvelle technologie qui s'appelle le séquençage de l'ADN à haut débit. Et donc, l'idée, c'est, en fait, à partir d'un certain nombre de mutations qu'on peut créer dans le chromosome des bactéries, d'identifier lesquelles de ces mutations donc peuvent sensibiliser ces bactéries aux antibiotiques, c'est-à-dire leur redonner une sensibilité alors qu'elles étaient devenues résistantes, par exemple, à des produits de dernier recours comme la colistine.
Quels sont les types de bactéries qui ont été testées là dans l'étude ?
Alors là, il s'agit d'une espèce qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, donc c'est un nom un peu compliqué, mais c'est une espèce qui est essentiellement responsable d'infections nosocomiales.
Alors, l'idée, c'est d'utiliser en quelque sorte les mêmes armes qui ont offert la résistance aux antibiotiques à ces bactéries, à savoir l'évolution et les mutations génétiques, en fait.
Oui, d'une certaine façon, ça consiste en fait à trouver les moyens de contourner les mécanismes mis en place par ces bactéries pour s'opposer à l'action des antibiotiques et éventuellement de trouver aussi des médicaments qui vont venir par la suite donc aider d'autres antibiotiques pour être plus efficaces sur ce type d'espèces.
En termes de traitement, ça voudrait dire prendre un antibiotique plus un traitement supplémentaire en complément ?
Alors dans le cas précis de cette étude danoise, donc c'est le cas, hein, c'est-à-dire mettre un adjuvant en quelque sorte qui va resensibiliser la bactérie à un antibiotique qui a perdu par ailleurs son efficacité.
Oui, Patrick Plaisir, cette stratégie-là que vous décrivez justement, qui fait l'objet de cette étude, c'est la première fois donc elle est mise au point. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas on n'était pas parvenu avant à le faire ?
En fait, c'est une stratégie qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais pour d'autres antibiotiques. C'est-à-dire que, par exemple, une des molécules principalement utilisées en thérapeutique humaine pour lutter contre les infections bactériennes, c'est l'amoxicilline. Mmh. Et donc, un des mécanismes assez courants de résistance à cet antibiotique chez les bactéries, c'est la production d'enzymes qui dégrade en fait l'amoxicilline. Donc, la molécule étant dégradée, elle ne peut plus agir. Et en fait, on utilise depuis déjà plusieurs décennies des inhibiteurs de ces enzymes, donc qui empêchent la dégradation de l'amoxicilline.
Vous pensez que c'est grâce à cette méthode qu'on vaincra l'antibiorésistance? C'est vraiment en essayant de rajouter de la chimie au traitement qui existe déjà qu'on arrivera à bout du problème?
Non, pas forcément. C'est une stratégie parmi d'autres qui est suivie à l'heure actuelle. Et il y en a d'autres, hein. Donc il y a d'autres pistes. Donc on continue à explorer effectivement les ressources donc naturelles pour trouver de nouvelles molécules, essayer d'améliorer celles qui sont existantes. Ça, c'est, on va dire, la stratégie qui a été suivie jusqu'à présent, mais il y a d'autres possibilités.
En tout cas, il y a des enjeux effectivement très très importants pour la santé publique avec ce problème de résistance.
Oui, effectivement, comme vous le disiez, donc c'est un phénomène qui est mondial, donc qui touche tous les pays. Il touche l'homme, mais également l'animal, puisque les antibiotiques sont largement utilisés donc dans le domaine vétérinaire et dans l'agriculture.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres pistes envisagées aujourd'hui?
Alors donc, parmi les pistes qui sont suivies par des équipes de chercheurs, il y a d'une part la possibilité de développer des molécules qui ne sont pas des antibiotiques au sens propre, c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas sur la vitalité des bactéries, mais elles sont là pour, on va dire, neutraliser les mécanismes de virulence, on va dire les facteurs de pathogénicité des bactéries. En gros, l'idée, c'est de les rendre ces bactéries inoffensives et donc en fait permettre au corps humain de se débarrasser de ces bactéries sans avoir à les tuer par ailleurs avec des médicaments, donc sans leur mettre une pression de sélection particulière.
Est-ce que les recherches menées en parallèle sur le microbiote et la restauration des écosystèmes bactériens pourraient aussi aider à lutter contre la résistance?
Alors là, oui, c'est un domaine qui est passionnant et donc qui est en plein essor. Donc on sait par exemple que la restauration de flore complexe comme la flore digestive, la flore intestinale, par différents moyens, donc il y a des processus de transplantation fécale maintenant qui ont été mis au point, donc permettent donc d'éliminer certains pathogènes sans même avoir à utiliser dans ces antibiotiques. Et ça, c'est uniquement par le biais donc d'effets de barrière de ces flores naturelles. Et donc c'est quelque chose d'assez complexe, hein, puisque donc c'est des équilibres qui se mettent en place donc entre les bactéries et donc qui permettent d'éliminer donc des bactéries qui ne font pas partie justement de ces flores naturelles.
Alors Patrick Plaisia, il y a une autre stratégie dont on parle et qui revient un petit peu en ce moment, c'est celle des phages, les virus mangeurs de bactéries. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas plus alors que les résultats sont assez spectaculaires?
Alors oui, c'est bon, les résultats spectaculaires. Alors c'est pas une stratégie qui est véritablement nouvelle, hein. Donc elle a été développée avant même l'ère des antibiotiques, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors il faut savoir que ces virus, évidemment, ce sont des virus qui sont inoffensifs pour l'homme, hein. Donc ce sont des virus de bactéries que l'on trouve largement dans l'environnement naturel. Et donc, dans un premier temps, ils ont été utilisés essentiellement sur des infections superficielles, par exemple des infections de la peau, de muqueuse, et avec des résultats qui effectivement ne sont assez probants, donc notamment donc le traitement de surinfections, de brûlures ou d'escarres, par exemple. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est dans un contexte de pénurie de nouveaux antibiotiques, c'est de savoir est-ce que certains virus de bactéries, donc ces phages, pourraient être administrés donc par voie interne aux patients, donc notamment par aérosol pour les infections pulmonaires ou carrément par injection pour pouvoir éradiquer des bactéries. Il y a des tentatives, hein, qui ont été faites. Pour l'instant, les résultats sont pas si probants que ça. Et il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes quant à l'innocuité de ces phages. Est-ce qu'il serait même pas susceptible de modifier des équilibres également de flore, par exemple, ou même transmettre des mécanismes de résistance pour les bactéries? Ça, ça reste à déterminer.
Pierre-Marie Liédot, vous voulez réagir?
En fait, j'aimerais que nos éditeurs comprennent bien un petit peu cette révolution, puisque tout à l'heure vous nous meniez sur le chemin des systèmes complexes, que aujourd'hui le monde, la biologie en fait, est face à, quitte un monde qui était déterminé, une molécule, une fonction, et donc c'est comme ça qu'on a vu les antibiotiques arriver, mais force est de constater que évidemment la nature peut répondre à cette vision trop simpliste, et que maintenant par ces approches de bactéries dans un écosystème, avec autour des phages, avec des champignons. Donc, quand on parle de microbiote, notamment le microbiote intestinal, ce sont des champignons, des bactéries, des virus et des phages qui cohabitent et qui sont en relation avec l'hôte.
Et qui offre de multiples stratégies aussi, du coup, avec cette variété, cette diversité du vivant.
Exactement.
Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Plaisia, pour votre éclairage donc sur cette publication et ces pistes, en tout cas, pour la lutte contre l'antibiorésistance. Merci beaucoup à vous. Et puis, Axel, on rappelle à nos amis auditeurs qu'on se retrouve demain à 18h30 pour le premier Facebook Live de La Tête au Carré.
Oui, on se retrouve à 14h pour la une, et après, à 18h30 sur Facebook.
Et on a une petite vidéo, d'ailleurs, pour vous en parler, qui est en ce moment sur le Facebook de l'émission. À demain, Axel. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'activité du cerveau peut-elle continuer après l'arrêt du cœur? C'est la question posée dans une drôle d'étude publiée par le Canadian Journal of Neurology. Des chercheurs ont suivi l'activité cérébrale de 4 patients au moment précis de leur mort. Pour 3 des 4 sujets parfaitement consentants, le cerveau s'éteint un peu de temps avant le dernier battement de cœur. Mais pour le quatrième, les détecteurs ont pu mesurer une activité cérébrale pendant près de 10 minutes après que le cœur se soit arrêté. Conscient de l'incohérence de ces résultats avec les connaissances actuelle, l'équipe se propose de renouveler l'expérience et s'avoue pour l'instant incapable d'expliquer ce phénomène observé. Pierre-Marie Liédot, est-ce que vous avez une réponse sur ce cerveau qui continue à fonctionner?
Disons que je ne suis pas surpris qu'on ait encore des découvertes aussi importantes que celle-ci. Quand on montre que le cerveau peut continuer à fonctionner, encore faut-il définir ce qu'est la fonction sur laquelle on va pouvoir se focaliser. S'il s'agit d'activité électrique, je ne suis pas étonné de savoir qu'un cerveau peut encore émettre des impulsions électriques alors qu'on ne le nourrit plus avec de l'oxygène, parce qu'il y a d'autres façons de produire de l'énergie.
Également dans l'actualité scientifique, la chaleur, il a fait chaud, très chaud cet été en Australie. C'est une étude de l'ONG Climate Council qui le révèle. En 90 jours, pas moins de 205 records de température ont été battus à travers l'Australie. À Sydney, la température moyenne estivale était supérieure à la normale de 2,8 degrés. Et à Adélaïde, dans le sud-est du pays, la population a passé son Noël le plus chaud depuis 70 ans avec 41,3 degrés. L'ONG met en garde contre les conséquences de ces vagues de chaleur amenées à se répéter de plus en plus fréquemment. La Grande Barrière de Corail en fait notamment les frais. 2/3 de la surface corallienne de sa section nord aurait disparu en 2016 en raison des températures trop hautes. Et puis la première espèce de grenouille fluorescente a été observée. Il s'agit de la rainette à pois sud-américaine avec un teint vert jaune parsemé de pois rouges à la lumière du jour. Elle émet une lueur plutôt bleu verdâtre lorsqu'on la plonge dans l'obscurité. La fluorescence est un phénomène rare chez les animaux terrestres. C'est la première fois qu'on l'observe chez un amphibien. C'est en plaçant l'animal sous une lampe UV que les chercheurs ont remarqué cette lueur particulière. Si les molécules responsables de ce phénomène ont pu être identifié, il reste à comprendre son utilité. Plusieurs autres espèces de grenouilles pourraient posséder la même fonction. En tout cas, la photo de cette rainette à pois est à découvrir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, on parle du cerveau dans un instant et des grandes découvertes de ces dernières années avec mon invité Pierre-Marie Liédot et à l'occasion de la semaine du cerveau. Bon après-midi sur France Inter.
L'impression que toujours tu étais là. Tu t'as vu comme ça glisse. Pourtant tu m'as commis d'office. Mais c'est la fin pour moi du chemin de croix. C'est un bien beau séjour
bien mérité, je crois. Nous prime bien, nous prime cher, mais c'est toi que j'ai dans ma chair. Plus les lambeaux du temps jadis d'un temps naguère. Remonte un seul jour à moi. Remonte une seule fois à moi. Parle-moi d'amour à moi. Remonte une seule fois. L'impression que toujours tu t'aimes. Remonte un seul jour à moi. Remonte une seule fois à moi. Parle-moi d'amour à moi. Remonte une seule fois.
Romain Amor et Benjamin Biolay dans notre tête au carré consacrée au cerveau.
Nous n'en savons pas assez sur le cerveau. Notre cerveau est si compliqué qu'il est très difficile pour l'homme d'en comprendre le mécanisme. On essaie de comprendre le cerveau humain avec le cerveau humain. Or, la seule manière de le faire est de réunir plusieurs cerveaux sur ce problème. Et cela peut se compliquer au point qu'un ordinateur devient nécessaire pour formuler les résultats. Voilà. Alors, si les ordinateurs nous aident à comprendre les mécanismes du cerveau, cela nous aidera à sortir des sentiers battus pour devenir plus intelligents, plus humains. Puis, les machines s'améliorant, nous nous améliorerons aussi.
Et c'était la voix d'Isaac Asimov en 1974 dans un rendez-vous sur les incroyables prédictions du futur. Père Marie Liédon, on a fait des progrès quand même depuis 1974. C'est justement l'objet de votre ouvrage pour nous parler de notre cerveau au 21e siècle. Dossier cet après-midi, donc à la lumière des découvertes les plus récentes. Vous êtes neurobiologiste et directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur et vous dirigez au CNRS le laboratoire Gènes et Cognition. Et donc vous arrivez avec ce livre, Le cerveau, la machine et l'humain chez Odile Jacob. Avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà. Alors c'est vrai qu'on emploie parfois, souvent, le mot de révolution, parfois à tort et à travers d'ailleurs, pour nous faire croire que la science a fait des pas de géant hein, dans des domaines particuliers. C'est pourtant vous, le mot que vous employez dès le premier chapitre de votre livre, pour parler de ce qui se passe depuis 15 ans là, dans le domaine des neurosciences. La connaissance sur le cerveau, ça a vraiment explosé depuis cette dernière décennie.
Effectivement, on peut
racontez-nous ce qui se passe.
On peut situer le point d'inflexion autour des années 2000 où les chercheurs vont faire converger leur savoir et leur corpus de connaissances.
C'est ce que dit Asimov, les cerveaux pour comprendre le cerveau.
Ah mais c'est très intéressant ce que dit notamment on le connaît Isaac Asimov au travers moi c'est les premiers ouvrages qui m'ont passionné et qui m'ont emmené vers la science, c'est pour ça que j'étais un peu ému en l'écoutant au travers de ces ouvrages et les différents tomes sur la fondation, on le connaît sur les lois qu'il a évidemment édictées pour dans le domaine de la robotique. Mais c'est vrai que c'est très pertinent ce qu'il nous dit là, puisque les points d'inflexion autour des années 2000, c'est lorsque l'on va pouvoir justement faire appel à la révolution du numérique et partager ce savoir. Pouvoir mettre des corrélations sur des événements sur lesquels on n'avait même pas pu imaginer. Et donc, le terme de révolution, à mon avis, n'est pas un abus de langage. Mm-hmm. lorsque on est en train de retirer le voile qui recouvrait cet organe si mystérieux. Alors avec évidemment toutes les craintes que cela peut entraîner derrière cela, puisque
c'est-à-dire quoi vous faites
allusion. Dès l'instant où l'on s'intéresse et l'on comprend et on décrypte comment le cerveau fonctionne, évidemment
la manipulation n'est pas loin.
On est en train de toucher l'essence même de l'humain, puisque ce qui nous fait humain, ce n'est pas notre sang, les muscles, nos tendons, quoi, je ne sais quoi, le squelette, mais c'est le cerveau.
C'est notre pensée au fond.
C'est le
siège de notre pensée.
Voilà, c'est l'organisation de cette structure qui est assez particulière et qui fait que l'humain a des particularités dès qu'on décrypte le fonctionnement de son cerveau.
Ouais. Le cerveau humain, il est vraiment, c'est une machine complexe, comme d'ailleurs le sont tous les cerveaux, mais par rapport aux autres animaux, c'est vraiment quelque chose de très particulier, le cerveau d'Homo sapiens.
Alors bon, ça c'est une querelle actuelle très forte dans le domaine des neurosciences. Certains s'inscrivent dans un continuum et nous disent que finalement entre le primate non humain et l'humain, il y aurait que un saut, disons qualitatif, mais non pas quantitatif, mais non pas qualitatif. Pour d'autres, l'humain à des particularités qu'on ne retrouve pas.
Alors lesquelles, par exemple ?
Ben, écoutez, pour moi, puisque je fais partie effectivement de ce deuxième courant de pensée qui voit, au travers des neurosciences, des spécificités au cerveau humain, je dirais que peut-être la première, c'est la possibilité d'avoir une machine bayésienne, un gros mot qui veut dire simplement des inférences, des calculs. Tiens, si tu fais ça, t'auras cela. Et si tu fais cela, t'auras encore mieux. C'est-à-dire le pronostic.
L'anticipation.
La projection dans le futur. Ce que les philosophes appellent le désir, finalement. Cette capacité de sortir de l'acte présentiel et nous projeter dans le futur.
Alors ça, l'éthologie découvre des choses chez les animaux, quand même, à ce sujet-là.
Effectivement, on peut voir un écureuil amasser les glands à la fin de l'été. Est-ce qu'il est déjà en train de prédire un hiver rigoureux? Je pense pas. Il est certainement dicté par des cascades déterministes, parce que la photopériode a été réduite, des chutes d'hormones, et finalement un comportement qui a été sélectionné au travers de l'histoire de l'espèce.
Enfin, chez les corvidés, on a de beaux exemples aussi quand même d'anticipation. C'est-à-dire qu'un corvidé est capable d'ouvrir une boîte en ayant plusieurs étapes de réflexion, justement.
Effectivement. Et donc là, c'est là où on peut voir des sauts plutôt qualitatif ou quantitatif que qualitatif, c'est-à-dire que on peut toujours trouver des vestiges dans les traits que l'on va attribuer à l'humain, l'empathie, le calcul du pronostic futur, mais on va être dans un niveau de complexité évidemment autre.
Chez Homo sapiens,
chez Homo sapiens,
en l'occurrence. Alors, Pierre-Marie Liédot, citez-nous quelques exemples quand même de ces grandes avancées de ces 10-15 dernières années et qui vraiment marquent un tournant dans ce domaine des neurosciences. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert, par exemple, qu'on ne connaissait pas il y a encore 15 ans et qui transforme complètement aussi l'approche scientifique du cerveau?
Alors, je pense que si vous me questionnez tous les jours, j'aurai une réponse différente. Donc, celle qui vient maintenant au temps zéro, je dirais que c'est la possibilité de voir le cerveau fonctionner de façon intrinsèque et non pas stimulé par l'environnement. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à très peu encore poussé par cette vision-là, disons l'héritage de Descartes, cérébro-centriste, le cerveau est au repos, se réveille quand il est stimulé par le son, les odeurs, et engage une activité, va traiter cette information et va produire une action. Donc, perception, traitement, action. Voilà. Et en dehors de ces stimulations, le cerveau se repose. On le voyait paresseux, attendant.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas sollicité?
Ce qui est incroyable, c'est que pour les chercheurs qui ont eu la patience de regarder un cerveau qui s'ennuie, finalement, dans un scanner, eh bien, on voit qu'il bouillonne. Il bouillonne peut-être même plus que quand on l'embête à le solliciter sur telle et telle fonction cognitive, calcul, réfléchit, lit, etc.
D'où l'importance du sommeil.
Le sommeil évidemment et ce phénomène-là où en dehors de stimulation de la sphère externe de l'environnement, eh bien le cerveau est capable d'avoir une activité intrinsèque et c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, mais bon par imitation de nos confrères les physiciens. C'est-à-dire qu'on parle d'un cerveau qui possède un fonctionnement intrinsèque et du coup on voit la perception comme étant juste une réorientation l'activation de cette activité intrinsèque.
Ouais. Alors justement, on parlait tout à l'heure du microbiote avec les bactéries. Là aussi, ça c'est vraiment très récent aussi comme découverte. Ce lien direct entre nos intestins, notre microbiote, notre flore intestinale et notre cerveau. C'est-à-dire que là, ça y est, on a tracé une voie directe entre les deux ?
Eh bien, c'est assez intéressant finalement que vous puissiez me conduire. D'une part, on était sur le cerveau qui répond à l'extérieur et maintenant on est sur le cerveau qui répond de l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on voit, et ça fait partie des 15 dernières années, on voit le cerveau à l'interface d'écosystèmes. Que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur.
L'écosystème bactérien, en l'occurrence.
Écosystème, en l'occurrence, bactérien, ouais. Qui envoie des signaux, des messagers, alors que ce soit par voie sanguine, directement dans le cerveau, que ce soit par le système immunitaire, qui va être aussi, lui, instruit par ce qui se passe dans notre intestin. Mmh. Finalement, le fameux gut feeling, il est peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a
Qu'est-ce
une communication.
Qu'est-ce que c'est le gut feeling?
Donc, dans la littérature anglo-saxonne, on parle de gut feeling, c'est-à-dire prendre des décisions par les tripes. Mmh. Et c'est lorsque le ventre parle au cerveau, en somme. Alors qu'il parle de façon directe, via la voie sanguine, ou de façon indirecte, à partir du système immunitaire, qui vient pénétrer dans notre cerveau et modifier l'état de fonctionnement de certains circuits.
Ouais, mais ça, c'est fascinant, parce que c'est-à-dire que ce que nous donnons à manger à nos bactéries influence aussi directement notre pensée.
On est effectivement ce que l'on mange en quelque sorte et c'est tout un pan nouveau dont on qualifie de psychobiotique, c'est-à-dire que finalement mon état de bien-être ou de mal-être, cet équilibre très judicieux, peut se trouver finalement altéré simplement parce que dans mon estomac, dans mon intestin plus précisément, je vais avoir rupture d'un équilibre, d'un écosystème.
Ouais. Il était fort Hippocrate hein, quand même.
Parce ah oui, déjà, il avait anticipé.
C'est lui qui avait déjà tout compris avant nous. Allez, on se retrouve dans un instant, Pierre-Marie Liédot, pour la suite de notre dossier.
Look you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy.
La voix de Lana Del Rey, Love, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de notre Tête au Carré sur France Inter.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Pierre Marie Liédo, Le cerveau, la machine et l'humain, le cerveau du 21e siècle, donc ce livre qui paraît chez Odile Jacob. La machine d'ailleurs, c'est quelle machine exactement? C'est celle du cerveau ou c'est la machine robotique?
En fait, c'est toutes les machines, c'est-à-dire que le fil conducteur que pourra retrouver le lecteur, c'est l'idée de que l'humain est capable d'auto-transformation, d'auto-domestication. Pourquoi? Parce qu'il invente des machines, et que l'usage de ces machines, en retour, change notre cerveau, qui va gagner en complexité, qui va créer d'autres machines, et etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit, finalement, une dynamique cérébrale produite par le changement, qui lui-même est produit par les machines. Quand j'utilise Google, j'ai un effet Google dans ma stratégie que je vais utiliser pour retenir l'information.
Ouais. Alors Pierre-Marie Liédo, juste encore un mot sur les grandes avancées, les grandes découvertes de ces dernières années. Il y a quand même tout ce qui tourne autour de la plasticité cérébrale, parce que là, il y a quand même quelque chose de fascinant. La façon dont se modèle le cerveau, en fonction des événements, sa capacité justement à emprunter d'autres voies lorsque les situations l'imposent, et puis la fabrication permanente de neurones. Ça, c'est quand même une découverte très importante à laquelle vous avez participé.
Effectivement.
On ignorait ça au départ. Enfin, il y a encore très peu de temps qu'on pouvait fabriquer tout au long de la vie de nouveaux neurones.
Oui, alors pour comprendre pourquoi il y avait de tels verrous et de tels blocages, il faut simplement se ramener au tournant du XXe siècle et voir les planches anatomiques du père fondateur des neurosciences qui s'appelle Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, qui a fait des dessins extrêmement précis sur la circuiterie du cerveau, alors de tous les animaux qu'il pouvait observer, mais plus particulièrement chez l'humain, et il s'est rendu compte que ce cerveau était tellement complexe qu'il en a édicté une loi que de cette complexité on ne pouvait pas modifier les éléments une fois qu'ils avaient été construits.
C'est ça.
Comment imaginer que de réseau ferroviaire autour de Paris, je puisse interrompre telle et telle voie ferrée sans impacter tout l'ensemble du réseau ferroviaire? Et bien, c'est la même démarche qu'avait Santiago Ramón y Cajal, c'est de dire que le cerveau est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer, pendant que ce cerveau fonctionne, on puisse enlever un élément et en remettre un autre. Donc le dogme a été très fort. Ensuite, on est arrivé avec l'école du constructivisme dans les années 70. Même démarche. On s'est dit, voilà, le cerveau passe tellement de temps à acquérir des fonctions les unes après les autres. On a donné des termes très précis sur les périodes critiques, les fenêtres d'opportunité.
C'est ça.
Bien, c'est parfait. On s'est dit donc que le cerveau passait son temps à acquérir fonction après fonction. Alors,
c'est pour
souris,
un but en soi. C'est
voilà,
pour, voilà,
un but en soi.
Ça se termine une bonne fois pour tout.
Je peux pas tout faire en même temps. Je mets des séquences dans l'acquisition. Mais une fois que c'est acquis, je vais
le
cristalliser.
C'est pour la vie.
C'est pour la vie.
Voilà. Et c'est faux.
Eh bien absolument, c'est faux. C'est-à-dire que ce qui va évidemment être le moteur de cette dynamique, c'est le désir. Donc finalement, je vais finir par ne plus apprendre ou ne plus être assez réfractaire au changement quand finalement mon désir va s'émousser. C'est une des raisons pour lesquelles l'enfant qui est porteur de désir apprend très facilement.
Alors on peut mettre plein de mots derrière le désir. Il y a la stimulation par exemple.
Oui, absolument.
Edgar Morin a encore parlé hier de la crise de l'intelligence. Réfléchir, penser, imaginer, construire des choses, voilà, ça c'est créer du désir chez le cerveau et fabriquer des nouveaux neurones, on peut dire des choses comme ça.
Ça fait partie en tout cas d'une des premières lois dont on a pu établir les relations de causalité. Plus mon cerveau est soumis à du changement, plus il va s'interroger. Alors attention, changement, information, mais il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de comprendre. Donc là, il y a toute une démarche analytique, temporelle, de savoir qu'est-ce que je reçois comme information et qu'est-ce qu'elle m'apporte comme information, et donc quitter le savoir pour venir dans le comprendre, et on se rend compte que ce cerveau, quand il est stimulé de cette façon-là,
toute la vie,
lorsque le sujet devient finalement un acteur et non pas un spectateur passif, toute la vie, on est capable de produire des nouveaux neurones dans deux régions bien précises de notre cerveau, deux régions qui ont en fait une relation très étroite pour l'une avec la formation de nos souvenirs et la gestion des émotions, et pour l'autre système, eh bien une région qui régit la récompense.
Ouais. Est-ce que nos neurones vivent longtemps ou pas, ou est-ce qu'il y a une alternance en permanence de vie et de mort justement de neurones?
Pour la plupart, il faut bien quand même dire les choses, pour la plupart des neurones de notre cerveau, nous naissons avec ce quota produit à l'âge embryonnaire ou très peu après la naissance s'arrêtant, et on restera avec ces neurones-là. Mais dans certaines régions, et notamment deux de façon, je dirais, constitutive, naturelle, des nouveaux éléments viennent remplacer les autres. C'est-à-dire que ces nouveaux éléments vont être programmés génétiquement pour mourir à un moment donné. finalement. Et donc, après avoir été utiles parce qu'ils ont une capacité de surstimulation, d'hyper-réactivité, eh bien, quand ils auront perdu cette capacité, ils seront remplacés par d'autres hyper-réactifs.
Alors, ce cerveau humain qui est profondément interconnecté, hein, c'est ce que vous nous expliquez également dans cet ouvrage, le cerveau justement qui est social et qui est très sensible à son environnement, ça c'est absolument essentiel, et c'est également le cerveau empathique. Pour en parler avec vous, un extrait de l'émission Xenius sur Arte.
En voyant quelqu'un souffrir, d'une part, nous savons qu'il souffre, et d'autre part, nous le ressentons. Mais est-ce aussi le cas lorsqu'il s'agit d'un étranger, voire d'un adversaire? Que se passe-t-il dans le cerveau d'un fan de foot lorsqu'un rival de l'équipe adverse reçoit des électrochocs?
Au lieu de la réaction empathique habituellement visible dans l'insula, un grand nombre des participants à l'expérience présentent une activation du nucleus accumbens ici. C'est une zone qui joue un rôle dans le système de récompense. Nous leur avons ensuite demandé ce qu'ils avaient ressenti. Et beaucoup ont répondu qu'ils s'étaient réjouis de la douleur de l'autre.
L'empathie a donc des limites sociales.
Prenons l'exemple des réfugiés. Ressentons leur détresse, a-t-on de l'empathie envers eux? Tout dépend si l'on considère qu'ils sont comme nous ou si l'on se dit qu'ils n'ont rien en commun avec nous, qu'ils ont une autre religion et n'appartiennent pas à notre communauté.
Pierre-Marie Liedo, alors ce cerveau humain qui réagit aux émotions. Alors d'abord, quand on écoute ça, ça fait penser à un terme, les neurones miroirs, dont on n'entend plus beaucoup parler d'ailleurs aujourd'hui, cette façon de réagir justement aux émotions de celui qu'on a en face de nous. C'est toujours la mode, les neurones miroirs ou pas?
Disons que, comme toujours, parfois les découvertes sont victimes de leur succès. Mmh. Cette découverte, au départ, est liée à l'enregistrement de façon complètement par hasard de neurones qui gèrent la motricité. Et ces neurones qui gèrent la motricité, lorsque l'expérimentateur en face de son primate a voulu se saisir de sa tasse de café, a vu ces neurones s'activer. C'est-à-dire qu'en fait, le concept d'un système nerveux séparé entre le moteur et le sensoriel ou le sensitif, eh bien, était faux, puisque le chercheur montrait que l'action et la perception étaient mélangées dans la même structure, puisque son électrode n'avait pas bougé. Et donc, ces chercheurs italiens ont défini ce neurone miroir comme étant la capacité qu'ont certaines structures à produire de l'action, de la motricité, à également être réceptif à l'action d'autrui.
Mais c'est le même mécanisme dans le cas de l'empathie ou pas?
Alors c'est là où c'est extrêmement décrié, parce que ensuite ce succès a conduit d'autres chercheurs à vouloir retrouver les mêmes principes, je dirais, anthropologiques de l'altérité au travers de ce neurone miroir, de dire que finalement une partie de notre cerveau était tournée vers l'autre. Et c'est vrai, je pense que une des particularités également, comme vous me parlez tout à l'heure de ce qui rend singulier le cerveau humain, je dirais, c'est le fait d'avoir cette mosaïque de territoires qui ne sont engagés que lorsque nous sommes en rencontre avec l'autre.
Mais il y a des dispositions naturelles. Le cerveau a cette disposition pour l'empathie.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce cerveau cherche à imiter l'autre. C'est très utile, puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre, puisque nous naissons avec un cerveau complètement inachevé, et l'on va pouvoir acquérir de l'apprentissage par imitation. Donc c'est la première volonté du cerveau, c'est d'imiter l'autre.
Ouais. Et donc on ressent les émotions d'autrui.
Et puis, dans cette imitation, c'est d'abord l'imitation de l'action. J'apprends à mettre les chaussures de maman quand elle n'est pas là, ou pour la fille, ou pour le papa, le garçon, les chaussures de papa. Et puis ensuite, après avoir appris et imité les gestes, c'est imiter les émotions, ressentir les émotions de l'autre. Ouais. Et puis le troisième stade, en fait, puisqu'il y a trois stades, c'est de lire les intentions de l'autre. Puisque je partage tes émotions, à la fin, je vais aussi comprendre tes intentions.
Donc là aussi, c'est anticipé.
C'est anticiper le comportement de l'autre. Voilà. Et là, on montre combien les neurosciences offrent des outils modernes, notamment en matière de management. Des choses qui étaient vraiment imprévues autrefois. On est là sur la définition même du leadership, du charisme, etc.
Ouais. Mais alors, le neuromanagement, parce qu'on le met à toutes les sauces, le neuromarketing, enfin, c'est dans tous les domaines. Il faut faire très attention aussi à la façon dont on utilise le cerveau et à ce qu'on en dit et à ce qu'on peut offrir comme clé pour...
C'est une des raisons pour laquelle je crois qu'il faut démystifier le cerveau. et se rendre compte que finalement on ne sait pas grand-chose et qu'on est loin d'offrir du prêt-à-penser en matière de neuroéducation, en matière de neuromanagement, qu'il nous faut d'abord quand même essayer de comprendre la machine plutôt que d'offrir les outils.
Pierre-Marie Liédot, il y a des questions pour vous au standard de la tête au carré et sur le mail en particulier. Je vous les transmets dans un instant après Ella Fitzgerald, Can't Buy Me Love.
Feel all right, for I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Can't buy. I don't care too much for money can buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love.
Pierre-Marie Liédot avec Le cerveau, la machine et l'humain chez Odile Jacob et cet après-midi avec nous dans la tête au carré avec les questions des auditeurs. Jean-Paul revient sur la façon de régénérer justement de nouveaux neurones tout au long de la vie. Est-ce que ça joue un rôle clé dans la mémoire? C'est sa question.
Alors effectivement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les deux régions de notre cerveau qui sont soumises à ce renouvellement constant de neurones, l'un a à voir avec les systèmes de la récompense et l'autre l'hippocampe en raison de sa forme similaire au cheval marin, eh bien c'est une région clé pour la formation des souvenirs avant que ces souvenirs soient ensuite stockés à vie dans le cortex. Donc l'hippocampe est sujet à ce renouvellement de neurones et on peut clairement établir une corrélation directe entre le nombre de nouveaux neurones produits dans cette région et les capacités à mémoriser l'information.
Alors ces capacités justement qui permettent d'exercer son cerveau, comme par exemple dans des cas critiques après une hémorragie cérébrale, c'est extrait du magazine État de Santé.
À Berck-sur-Mer, au centre Jacques Calvé, on utilise des techniques de pointe. Les patients sont parfois très touchés, comme Monsieur Carpentier, marin pêcheur, arrivé ici il y a quelques semaines.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Bien dormi?
Oui.
Pas de douleur?
Non.
Tout va bien?
Oui.
On y va?
Pour aider les patients à créer de nouvelles connexions cérébrales, le centre a mis au point en interne un dispositif de rééducation qui utilise des consoles vidéo équipées de caméras à détecteurs de mouvement.
Faites des grands coucous à la caméra un petit peu partout. Ok, vous êtes prêts? J'envoie. Allez, un peu plus de poids sur le côté. Ouais, nickel. Doucement.
Ce patient a commencé sa rééducation il y a 3 semaines. Paralysé du côté droit, il peut aujourd'hui se tenir debout. Le cerveau se reconstruit petit à petit.
Ça tire nulle part?
Non.
Pas de douleur?
Non.
On peut se rasseoir, on fait une petite pause.
Bah, je suis arrivé, j'arrivais pas à me mettre debout, rien. Ma jambe ne marchait plus, mon bras ne marchait plus. Voilà, et là, je vois qu'il y a du progrès, quoi.
Voilà, diffusé sur la chaîne parlementaire en décembre dernier. Pierre-Marie Liédot, voilà un exemple parmi d'autres sur la plasticité cérébrale. Hein, ça, on est vraiment dedans.
Oui, c'est une plasticité incroyable qui fait que il y a 15 ans, tel sujet victime d'un AVC se voyait condamné à perdre la parole, l'écriture ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on développe tout un arsenal thérapeutique, qu'il soit comportemental ou basé sur des médicaments, et de voir ce cerveau pouvoir récupérer est toujours pour nous un bonheur.
Donc c'est un vrai muscle au fond,
hein, qu'on peut réexercer. On peut dire que le cerveau ne s'use que sinon on ne s'en sert pas.
Alors cette question de François, quelles sont les mutations qui altèrent le développement du système nerveux, et en élucidant ce mécanisme, est-ce qu'on pourrait enrayer des maladies neurodégénératives?
Alors effectivement, beaucoup de recherches sont faites en matière de génétique et de savoir quelle est la part de l'impact génétique sur la construction du cerveau. Il faut bien savoir que le cerveau a quand même une volonté, c'est d'échapper aux règles génétiques.
Ah, il a des volontés, le cerveau.
Il a des volontés de pouvoir plutôt répondre aux sollicitations externes et d'échapper finalement au déterminisme génétique. Cela dit, il y a quand même de plus en plus de pathologies qui sont associées, neurologiques, qui sont associées avec une mutation sur le plan génétique. Mais aujourd'hui, la psychiatrie, après avoir eu ses heures de gloire qui commençaient à associer tel gène et telle pathologie ou tel désordre de la sphère mentale, eh bien, on montre aujourd'hui que ce ne sont pas un ou deux gènes, mais ce sont des groupes de gènes. Et donc, on n'a pas vraiment avancé grâce à la génétique.
Alors justement, vous disiez à quel point justement ces dernières années avaient été importantes pour la compréhension des mécanismes complexes du cerveau. Et pourtant, on voit aujourd'hui les maladies neurodégénératives qui n'ont jamais été aussi nombreuses, d'abord parce que la population vieillit énormément. Est-ce qu'on va véritablement trouver des clés, rapidement en tout cas, pour essayer de soigner ces pathologies?
Je dirais qu'en matière d'espoir sur les stratégies thérapeutiques concernant les maladies neurodégénératives, il faut éviter évidemment la rhétorique de la promesse des jours meilleurs. Car on va d'écueil en écueil. À chaque fois, il y a à peine quelques mois, on a eu beaucoup d'espoir sur l'immunothérapie, c'est-à-dire utiliser des anticorps contre la formation des plaques, évidemment délétères dans la maladie d'Alzheimer. Puis finalement, il a fallu abandonner cet essai. Maintenant, je ne voudrais pas générer trop d'espoir. Un autre essai a démarré.
Mais c'est pas le cas, je vous rassure pour l'instant.
un autre espoir peut être lié au fait que l'on trouve des facteurs sanguins présents chez les jeunes sujets et qui auraient tendance à disparaître avec l'âge, et puis finalement donc chez les sujets qui peuvent être atteints de maladies neurodégénératives par des perfusions, par ces facteurs sanguins, pouvoir au moins ralentir l'évolution, si ce n'est réverser l'évolution. Donc ça, ce sont des, évidemment, à prendre avec beaucoup de précautions. Ce sont des espoirs nouveaux sur l'idée que ce cerveau, comme on l'a dit au tout début de l'émission, est un organe en symbiose avec le sang, avec les hormones, avec ce microbiote et d'autres agents qui influencent son fonctionnement.
Alain demande, que recouvre le neuromanagement et en quoi signifierait-il autre chose que la gestion des neurones, justement?
Bien non, je pense que derrière le terme de neuromanagement, il faut prendre de la distance et savoir qu'il existe aujourd'hui des connaissances sur le fonctionnement du cerveau que l'on peut utiliser pour le développement personnel, pour éviter le mal-être, pour éviter des situations stressantes. Donc toutes ces conditions qui permettent justement à ce cerveau dont sa plasticité d'épanouir finalement, eh bien pourrait être dans cette grande discipline qu'on pourrait qualifier de neuromanagement, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'esquisser le profil du manager neuro-amical.
Ah, c'est le terme que vous employez.
J'aime bien.
Bon, d'accord. Le manager neuro-amical, on ne l'a pas encore rencontré, mais en tout cas, si vous le croisez, vous pouvez nous le présenter. Est-ce qu'on a le temps encore, Stéphanie? On a encore 2 minutes devant nous. Alors, une autre question, justement. C'est la question, justement, qui vous reste à laquelle il vous faut répondre aujourd'hui sur le cerveau. C'est quoi la grande question, justement, dans toutes ces réponses-là qui émergent depuis quelques temps? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore qui résiste aux scientifiques et que vous aimeriez absolument savoir, Pierre-Marie Liédot, dans votre domaine?
Je pense que je ne suis pas le seul dans ce domaine, mais la grande question est celle, évidemment, de la conscience. C'est quoi la conscience dans 1,5 kg de matière grise? dans un organe embarqué dans un corps? Est-ce que c'est la dialectique entre ce cerveau et le corps? Est-ce que c'est des processus émergents que l'on pourrait dupliquer dans des machines? La question se pose.
Bon, et on travaille dessus évidemment?
Ah bien évidemment, quand on est sur l'intelligence artificielle, on est en voie, disons, de répondre à certains principes. En revanche, on ne parle pas d'empathie artificielle. Ouais. Donc je suis assez rassuré du fait que la machine ne viendra pas remplacer l'humain.
Le robot empathique, vous n'y croyez pas?
Pas encore.
Pas encore, ouais. On a des progrès à faire, même si le robot est capable de nous battre dans un certain nombre de domaines. En tout cas, on a encore des qualités qui nous sont propres, alors.
Je crois, oui.
Bon, Homo sapiens peut dormir encore tranquille. Merci beaucoup, Pierre-Marie Liédot. Je renvoie donc les auditeurs à cet ouvrage qui paraît, Le cerveau, la machine et l'humain, sous-titré Le cerveau du 21e siècle. C'est chez Odile Jacob. Et puis on n'oublie pas que c'est la semaine du cerveau. Hein.
Absolument, il faut se mobiliser.
Ouais. Et partout en France, il y a des rencontres avec les chercheurs pour en savoir plus donc, sur le siège de notre pensée, sur ce bel organe.
Restez curieux.
Qui vous passionne. Et il y a un site internet sur la semaine du cerveau qui est à votre disposition si vous souhaitez savoir ce qui se passe près de chez vous. Merci beaucoup, Pierre-Marie Liédot.
Merci, Mathieu.
Et à bientôt.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de prénoms, c'est ça, hein?
Oui Mathieu, de prénoms et de visages. Comme l'ont montré de nombreuses études, un visage dit beaucoup de choses. L'intelligence, la tendance à la domination, la chaleur humaine, etc. Mais peut-on aussi y deviner le prénom de son propriétaire? Ce qui impliquerait que cette étiquette attribuée à notre naissance, voire avant, s'imprime jusque dans nos traits. Est-ce que vous avez une tête à vous appeler Mathieu?
Bah, j'ai jamais pensé à ça.
Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Donald?
Encore moins.
Est-ce que nous intégrons les stéréotypes socioculturels liés à notre prénom au point de les restituer par le biais de notre physionomie? C'est la question intrigante qu'une équipe franco-israélienne pose dans une étude publiée en février.
On peut vraiment vérifier ça, Pierre?
Mon petit Mathieu, la science improbable peut tout. C'est à ça qu'on la reconnaît. En partant du principe que nous avons tous une idée préconçue de ce à quoi doit ressembler une Ginette ou une Marie-Amélie, ces chercheurs ont élaboré une série de 8 expériences, toutes fondées sur le même principe. Des observateurs seront-ils capables de choisir dans une liste de prénoms celui d'une personne prise en photo? Alors dans le premier test, ils ont proposé à un panel d'étudiants israéliens une série de 20 portraits, 10 d'hommes, 10 de femmes, chacun accompagné de 5 prénoms. Les individus photographiés se tenaient de face avec une expression neutre sur le visage et ont demandé aux participants d'écouter leur intuition pour associer un prénom à une trombine. Si on ne s'était fié qu'au hasard, il n'y aurait eu que 20% de chances de tomber juste, mais les cobayes ont fait nettement mieux. En moyenne, les bons prénoms ont obtenu 28% des suffrages.
Bon, et les autres expériences, alors qu'est-ce qu'elles ont donné?
Alors les chercheurs ont recommencé le test en vérifiant que la popularité des prénoms portés n'avait pas pu fausser la donne. Résultat inchangé. Ils ont transposé leur expérience en France avec des participants et des prénoms bien de chez nous. Résultat inchangé. Ils ont ensuite tenté une approche différente en se passant de cobayes qui ont été remplacés par une machine. Une machine à reconnaître les têtes et les prénoms. Les auteurs ont récupéré une base photographique contenant 94 000 visages associés à 28 prénoms français. Leur algorithme s'est entraîné sur 80% de ces clichés à distinguer une Céline d'une Amandine, un Clément d'un Laurent, etc. Puis on lui a soumis les 20% de visages restants, charge à lui de choisir entre deux prénoms, celui qui correspondait à la personne photographiée.
Alors, le résultat.
Selon les cas, la machine a eu entre 54 et 64% de réussite, soit nettement plus que si elle avait livré son verdict au hasard. Alors d'après les chercheurs, tout comme la laideur de l'âme de Dorian Gray transparaît sur son portrait, les stéréotypes attribués à un prénom finissent par déteindre sur le visage de celui qui le porte. Le prénom se comporte comme une prophétie autoréalisatrice et ceux qui auront un bébé bientôt sont prévenus.
Je vais donc finir avec un seul cheveu. On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre menu du supplément, Pierre?
Alors, cette semaine, le dossier est consacré à une affaire sensible, comme dirait mon voisin, le lien entre pauvreté et performance cognitive.
C'est donc dans Le Monde cet après-midi.